Vous écoutez RTL.
18h37 dans RTL Soir, votre deuxième invité, Marc-Olivier Fogiel.
Deuxième invité d'RTL Soir, il a le sens du timing, notre correspondant aux États-Unis. Bonsoir, Philippe Corbet.
Bonsoir, Marc-Olivier.
Le sens du timing, Philippe, car vous publiez Trumpitude et Turpitude, un carnage américain chez Grasset, au moment donc où le président des États-Unis dénonce violemment le fameux livre hein, Fire and Fury Inside the Trump White House, qu'il dépeint en gros comme inapte à exercer son mandat. Alors, vous, Philippe, vous avez contextualiser les tweets et déclarations de Donald Trump depuis un an. Et quand on vous lit, on rit souvent, on a aussi envie de pleurer car il s'agit quand même de l'homme le plus puissant de la planète. Et vous vous demandez, est-ce une comédie ou un drame ? Votre réponse pour commencer.
En fait, moi, ce que je pense, et c'est pour ça d'ailleurs que le livre qui fait beaucoup de parler ici, je pense, passe un peu à côté du sujet. Il faut prendre au sérieux ce qu'il dit, ce qu'il écrit. Il ne faut pas considérer d'emblée qu'il est fou ou stupide, parce qu'au fond, on passe à côté de l'essentiel. C'est facile de pas le prendre au sérieux. C'est facile aussi de dire, comme certains le disent en France ou aux États-Unis, au fond, il faut pas écouter vraiment ce qu'il dit, il faut regarder ce qu'il fait. Alors, moi, je propose au lecteur de lire ce qu'il écrit, de écouter ce qu'il dit. Je mets dans le contexte pour que chaque lecteur en France puis qu'on puisse comprendre de quoi il parle. Et vous allez vous faire votre avis, vous allez comprendre, par exemple, que la question n'est pas de savoir s'il est fou ou pas fou. On peut voir dans ses tweets, dans ses déclarations sur la première année, que son comportement est erratique, il est au fond enfantin, c'est-à-dire que il aime être satisfait immédiatement, il n'a aucune discipline, il ne lit pas, il a peu de connaissances sur un certain nombre de sujets, il parle de façon impulsive, il parle de façon grossière, il aime finalement être aimé, et on peut lui reprocher ce qu'on reproche à un gamin, sauf que ce gamin, entre guillemets, il est président de la première puissance.
Mais Philippe, est-ce que votre théorie, c'est qu'il joue le gamin, il joue à être simpliste, il joue à parler finalement comme l'américain moyen pour finalement avoir une cote de popularité qui est encore la sienne aujourd'hui, ou alors non, il est comme ça. C'est quoi, vous, votre feeling par rapport à ça? Parce que quand à un moment donné, il dit, n'est-ce pas un peu étrange qu'un gars qui vit sur la 5e avenue dans le plus bel appartement que vous ayez jamais vu vienne dans l'Alabama et que l'Alabama aime ce gars, on pourrait dire qu'il séduit parce qu'il parle comme eux, en fait.
Alors, c'est vrai, il n'a pas gagné malgré ses mots, il a gagné grâce à ses mots. Voilà. D'ailleurs, c'est la réponse systématique de la Maison-Blanche lorsque on souligne « Ah, il a dit ceci ou il a écrit ceci », la Maison-Blanche dit finalement « Les Américains ont élu celui qu'ils savaient être Donald Trump ». C'est-à-dire qu'il se comporte exactement de la même manière. C'est vrai qu'il a su, grâce à ses mots, il a fait de ses mots des armes, il continue à le faire, et c'est grâce à ses mots qu'il a été élu, parce qu'il a su parler à une partie du peuple américain qui ne se sentait plus entendu. Ça, c'est vrai. Et en même temps, il ne faudrait pas penser que c'est uniquement de la stratégie, parce qu'au fond, il est extrêmement impulsif, au bon comme au mauvais sens du terme, c'est qu'il écrit immédiatement ce qu'il pense au moment instantané. C'est-à-dire qu'il regarde la télévision le matin.
Ah oui, bah, ça, c'est sûr. Ça, voilà, ça, on l'a bien compris depuis un an.
Il tweet.
Notamment, donc, au début, puisque les premiers tweets matinaux, c'est en regardant la matinale de Fox News. Cette émission, elle explique beaucoup de ces réactions qui nous paraissent obscures.
Ah ben, pas plus tard que ce matin, il voit quelque chose sur Fox News, quelqu'un qui dénonce un vote qui va avoir lieu au Congrès aujourd'hui. Il tweet pour dire que c'est scandaleux. Le problème, c'est que c'est un texte soutenu par son gouvernement et sa majorité. Et donc, il faut qu'il y ait un communiqué de la Maison-Blanche dans la foulée pour expliquer que le président n'a pas voulu dire ce qu'il voulait dire. Tout simplement, il avait vu quelque chose à la télé, ça l'avait frappé, il tweetait là-dessus. Il n'a pas de connaissance précise du fonctionnement politique ou même du fonctionnement des institutions démocratiques américaines. Il dit une chose parce qu'il le voit à la télé, parce que ça l'intéresse. Il a des réactions finalement d'un téléspectateur lambda devant son poste. Et ce qui est frappant, c'est que quand on se dit « Ah, il a des stratégies, ah, c'est un coup de billard à trois bandes, ah, en fait, il veut faire diversion », non, la plupart du temps, simplement, il écrit instantanément ce qu'il pense, et c'est ça qui est fascinant d'un point de vue historique. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire du monde, on a une personnalité aussi puissante dont on peut voir immédiatement les émotions au fil de la journée.
Je comprends, mais comment la Maison-Blanche s'organise autour de ça? Parce qu'il faut bien gérer ces sorties. Là, vous parlez d'un communiqué. Autour de Trump, on a appris à gérer tout ça?
C'est-à-dire que l'ancien porte-parole qui a démissionné cet été racontait que tous les matins, il se réveillait, comme beaucoup d'Américains et de journalistes comme moi, avec les tweets du président. C'est-à-dire qu'on a des alertes sur nos téléphones. Le président tweet quelque chose à 5h30 du matin ou 6h parce qu'il l'a vu sur Fox News. Et il découvrait, le porte-parole, ce qui allait faire l'actualité de la journée, au fond. Et parfois, ce sont des choses insignifiantes.
Mais vous dites qu'il a démissionné, le porte-parole. Et d'ailleurs, il y a eu 27 démissions au sein de son administration. Oui. Un record. Ça veut dire que le camp Trump, finalement, n'était pas tellement préparé à accompagner ce président.
Mais parce qu'il ne pensait pas qu'il allait gagner. Lui-même ne pensait pas qu'il allait gagner. À part Steve Bannon qui avait prédit jusqu'au bout sa victoire, Donald Trump, au fond, s'est d'abord lancé dans cette campagne comme avant 2000 et avant 2012, dans l'idée de faire parler de lui pour servir sa marque et donc son business.
Quand vous lisez ces mots et que vous les analysez, vous les contextualisez, il y a beaucoup de mots qui tournent autour de la célébrité. Et c'est un de ces, finalement, baromètres pour juger quelqu'un, c'est plus ou moins célèbre que moi. C'est une échelle de valeur.
Exactement. C'est-à-dire que quand on parle de lui, que ce soit de la mauvaise publicité ou de la bonne publicité, au moins on parle de lui. Par exemple, il a toujours fonctionné comme ça. C'est la stratégie finalement des tabloïds new-yorkais. C'est que même si on dit quelque chose de mal sur moi, un jour par exemple, son ex-femme avait dit dans un tabloïd new-yorkais qu'elle avait eu les meilleurs orgasmes de sa vie avec lui. Beaucoup de gens auraient trouvé ça humiliant finalement de voir sa vie sexuelle étalée en une. Lui avait adoré ça finalement. Parler de lui, c'est finalement servir sa marque, servir sa cause. Et il fonctionne toujours comme ça à la Maison-Blanche. Par exemple, il rêve de battre le record de une du magazine Time. Les unes sont quasiment toutes systématiquement négatives. Mais il veut battre le record qui est le record de Nixon. Personne ne lui dit au fond que si Nixon a le record, c'est parce que c'est le président le plus haut de l'histoire américaine.
Mais justement, la question qui se pose malgré tout, alors on vous la posait souvent, et notamment dans nos journaux, Philippe, mais quand on lit ce livre, c'est est-ce qu'il est apte à exercer son mandat de président des États-Unis selon vous ?
Alors, excusez-moi de vous dire comme ça, mais il a été élu par les Américains. Les Américains savaient qu'ils élisaient. Il est élu, il est président jusqu'en janvier 2021, voire janvier 2025 s'il est réélu. Et donc, d'une certaine manière, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour continuer comme ça pendant 3 ans.
Alors, je vais vous poser la question autrement. Est-ce qu'il est dangereux à ce poste, même s'il a été élu pour ça ?
Si je vous disais que pour l'instant, les gens qui le soutiennent disent finalement pour l'instant il ne s'est rien passé de grave, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grave crise mondiale depuis un an, malgré les tweets sur la Corée du Nord, etc. La situation économique ici est bonne, il a prolongé la situation d'Obama, mais au fond c'est comme tomber du 100e étage et se dire en passant le 75e étage, ah c'est bon, jusqu'ici tout va bien. Ben oui, jusqu'ici tout va bien, il y aura peut-être un parachute en bas.
Mais vous croyez justement le parachute en bas qui lui permettrait de, j'allais dire, rebondir, en tout cas de ne pas s'écraser, mais aussi de repartir dans l'autre sens, et d'être réélu en 2020. Vous pensez que l'Amérique, puisque vous, vous y vivez, elle est finalement, elle a une autre perception de Donald Trump qu'on peut en avoir, nous ?
Mais bien sûr qu'il peut être réélu, et il peut être réélu justement grâce à ces mots, parce qu'au fond, ceux qui ne l'écoutent plus n'ont rien entendu de ce qui s'est passé, et il va se repasser la même chose. Il peut utiliser ces mots, il le fait tous les jours, pour justement parler à une partie de l'Amérique qui tient derrière lui, et ceux qui aujourd'hui se disent de toute façon, il est ridicule, il est mauvais, il est incompétent, il est fou, etc., il ne sera jamais réélu, eh bien, ils risquent d'être surpris, parce qu'au quotidien, en parlant avec ces mots-là, il s'adresse à une partie de l'Amérique qui tient derrière lui, et si ce qui s'est passé en 2016 peut se reproduire en 2020.
Il y a quand même sa fille, Ivanka, hein, qui est la plus connue. Vous racontez même que pendant le G20 à Hambourg, elle a remplacé son père au milieu des autres chefs d'État pendant une réunion. On lui prête une ambition présidentielle. Si c'est pas lui, ça peut être elle.
Probablement pas en 2020. Et ce qui est vrai, c'est que j'essaye dans le livre de montrer aussi les phrases d'autres personnalités à côté de lui, donc Ivanka Trump, Melania Trump, ses porte-parole, etc., qui ont finalement des phrases qui eux-mêmes jouent leur propre partition et essayent de compenser le comportement du président. Donc on voit Melania Trump qui est une forme de desperate housewife, finalement enfermée dans son château, malheureuse. On voit Ivanka Trump qui essaye de normaliser et de rassurer tout le monde, alors que parfois en disant, oh là là, c'est quand même très triste qu'il y ait autant de méchanceté à Washington. C'est ce qui est parfois quand même assez drôle, comme si elle ne lisait pas les tweets ou elle n'écoutait pas les discours de son père.
Et on parle donc de l'homme le plus puissant de la planète, malgré tout.
Mais ça dit beaucoup de choses sur notre planète, notre système médiatique et l'Amérique en général.
Trumpitude et turpitude, un carnage américain chez Grasset. Merci Philippe Corbet. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 19h pour nous parler de l'écho aux États-Unis, de la tribune ici française, signée notamment par Catherine Deneuve. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.